ouvert au public. Donc il faut que je trouve. Dès que j'ai, je vous dis. Ouais. Ouais. Rav Yehoshua Ben Nun, 36. Voilà. C'est juste après Mincha, donc c'est lors de l'entrée de Shabbat. Ok, les amis. Shalom, shalom, les koulam. Shalom, les koulam. Et on revient dans notre étude du livre de Bereshit après une longue absence due aux fêtes et au jour de souvenir, pardon. Comment ça, on n'a pas suivi? Mais on a suivi, bien sûr. Suivi, tout va bien. Et nous sommes arrivés au chapitre 23 du livre de Bereshit, qui correspond également au début de la paracha de Chaye Sarah. Alors, petit récapitulatif. Avraham a enfin accepté Yitzhak comme étant son successeur. Et donc, quelque part, ben voilà, il peut maintenant se retirer de l'avant-scène de l'histoire. Pourquoi il peut s'en retirer? Bien parce que maintenant que ça y est, il a été acté que ce sera Yitzhak qui va continuer, ben c'est bon, maintenant c'est à Yitzhak de bosser. Mais il reste une mission, si on peut dire comme ça, à Abraham, ça va être de s'occuper de l'enterrement de sa femme. De Souril. Ok? De Souril. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Sarah? Nous dit le Midrash. Lorsque elle voit qu'Abraham et Yitzhak sont partis, elle demande à Og, mais est-ce que tu les vois? Il dit, oui, ils sont sur la montagne et il est en train de lever le couteau pour aller les égorger. Et là, elle crie cette fois et elle meurt. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est le Midrash. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il n'y avait pas un mec qui les a vus et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sarah comprend très bien ce que cela veut dire que maintenant Yitzhak prend la succession d'Abraham. Ça veut dire que maintenant Yitzhak n'est plus son fils. Yitzhak devient à ce moment-là un père. Il devient un des patriarches. Non, il n'est pas encore marié. Il n'est pas encore marié, mais il prend son destin de Av à Uma. D'accord? Et donc après la mort de Sarah, eh bien, on nous raconte son enterrement. Et comment nous commence son enterrement? En nous disant Vayu Chaye Sarah. Voici les vies de Sarah. Et tout de suite, on comprend le problème. On nous parle, Sarah meurt, et on ne nous raconte pas du tout sa vie, en fait. On nous parle de sa mort. Et on nous parle de son enterrement. Vayu Chaye Sarah, c'est comme ça que s'appelle la paracha, la vie de Sarah, et on ne nous parle pas de sa vie. Si tu m'avais dit qu'Avraham va faire un grand éloge funèbre, où il va raconter tout ce qui s'est passé dans la vie de Sarah, mais ce n'est pas le cas. Il a sûrement fait, mais en tout cas, ce n'est pas marqué dans la Torah. Donc pourquoi une paracha qui ne traite que de la mort et de l'enterrement de Sarah s'appelle la vie de Sarah? Très bizarre. Eh bien, les amis, la raison est très simple. C'est que pour Sarah, et uniquement pour Sarah, sa mort est la réussite de sa vie. Alors, c'est un petit peu glauque ce que je viens de dire. Oui, un petit peu dur. Je vais m'expliquer. Évidemment que Sarah, c'est mieux qu'elle soit vivante, qu'elle soit morte. Mais Sarah, toute sa vie, a été en marloquette avec son mari. Toute sa vie, elle a été en marloquette avec son mari sur un point. En controverse avec son mari sur un point. Qui va hériter de toi? Qui va être celui qui va réaliser le projet de Kadosh Baruch Hu? Moi, Sarah, je dis que c'est Yitzhak. Et toi, Avraham, t'arrêtes pas de dire que c'est Ishmael. Et on s'est battu là-dessus, depuis qu'on est en Israël. Tu me diras, avant, à Haran, c'était pas... Non, mais depuis qu'on est là. Et ça a atteint un point culminant lorsque j'ai dit Garesh et ben Amaze, qui lo irash ben Ama im beni im Yitzhak. Renvoie le fils de cette servante, car il n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Et Dieu lui répondra à Abraham, écoute-la. En d'autres termes, il y a le problème de qui hérite, mais il y a le deuxième problème. Qui hérite de quoi? Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? c'est une descendance. Donc ça, on a réglé le problème. Ok, c'est Yitzhak. Enfin, du moins, du point de vue de Sarah. Mais il y a un autre problème. Dieu lui a promis quoi? La terre d'Israël. Or, on a vu qu'Abraham a beaucoup de mal à accepter la terre d'Israël. Abraham a beaucoup de mal à accepter le fait d'être à un endroit. Est-ce qu'elle va comprendre que je ne peux pas lui répondre? Abraham a beaucoup de mal à accepter d'être à un endroit, puisque Abraham est un homme pluriculturel. Abraham a envie de répandre son message dans le monde entier. Donc il n'a pas envie d'avoir un endroit en particulier où on va pouvoir l'associer à l'endroit. Le fait que Sarah meure va obliger Abraham à s'implanter en terre d'Israël. Il va devoir enterrer Sarah. Et donc, il n'aura pas le choix maintenant. Il sera lié à un endroit en particulier, puisque le caveau familial sera là. Marpel. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même assez, assez étonnant que la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. C'est pas la chose la plus romantique qui soit. On aurait pu acheter, je sais pas moi, un champ de pommiers, une maison, quelque chose. Alors tu me diras, il y a plein de gens, ça arrive très souvent, des gens qui arrivent de Houtz Laharet, la première chose qu'ils achètent en Israël, c'est un kevé.
Bon.
Et même ceux qui sont encore en Houtz Laharet, ils achètent un truc, c'est un kevé. Bon, mais ça, c'est la mode actuelle. Pourquoi la première chose que le peuple juif achète, c'est un tombeau, une tombe. Et les amis, pour comprendre cela, il faut aller s'immerger dans la halakha. Dans Ilchot Ba'alut. Dans les lois sur la possession. Aujourd'hui, dans le monde occidental, ce qui détermine la possession d'un objet pour quelqu'un, c'est son ticket de caisse. Sa facture. C'est-à-dire la preuve qu'il l'a acheté. C'est à moi, comment tu sais? J'ai un acte de vente. Voilà, j'ai la facture, voilà. C'est à mon nom, c'est moi qui ai acheté. Si je pars de cette maison, disons que j'ai acheté une maison, c'est-à-dire j'ai acheté une maison en France, et je pars vers mon aller en Israël, mais je n'ai pas vendu ma maison, et je ne suis pas revenu depuis 15 ans en France. Et je n'ai pas envoyé des gens pour nettoyer, ça fait 15 ans que je ne l'ai pas touché à cette maison. Et il y a des squatteurs qui viennent dans la maison. Est-ce que j'ai le droit de porter plainte pour les déloger? Ben oui. Oui, j'ai le droit. C'est ma maison. Alors après, si tu fais ça entre novembre et mars, tu ne pourras pas les déloger parce qu'on n'a pas le droit de déloger quelqu'un pendant l'hiver. Mais après, bon, ça c'est la loi française. Mais d'après la halakha, absolument pas. Parce que d'après la halakha juive, ce qui détermine la possession d'un objet, c'est ce que j'en fais. Ce que j'en fais. C'est-à-dire que si j'utilise l'objet, c'est chez lui. Mais si je ne l'utilise pas, alors évidemment, on ne parle pas d'utiliser forcément tout à chaque seconde, mais si c'est passé un temps qui est de manière générale accepté comme étant un temps pas normal de
3 ans.
Voilà, 3 ans.
Pour la Terre.
Pour la Terre, exactement. Bah, je n'utilise plus. Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Yéhouch. Et c'est donc devenu Efker. Prenons l'exemple d'un homme qui a acheté à sa femme un diamant extraordinaire. Quand on se rappelle, on avait déjà évoqué le coup du diamant. Donc c'est un diamant extraordinaire qui est gravé à son nom avec son numéro de sécu et un gros cœur, je t'aime ma chérie. Et il lui offre ce diamant pendant une virée en hélicoptère au-dessus de la terre d'Israël. Le diamant tombe exactement en plein milieu du lac de Tibériade, à l'endroit exact où il est interdit à tous les bateaux d'aller parce que c'est là où il y a 2 requins mutants à rayons laser qui, c'est leur territoire, évidemment. Et tout le monde le sait. Et donc, lorsque le diamant tombe, on voit les requins mutants arriver, c'est terminé. Et là, elle pleure. Et lui, il pleure encore plus. parce qu'il sait combien ça lui a coûté. Et il rentre à Herzliya pour se poser. Et voilà, Zéou. Et le pilote, lui, il avait mis au point un sous-marin spécial anti-requin mutant.
Tu racontes des enfants, ça.
Voilà. Et donc, le lendemain, il prend son sous-marin, il va à l'endroit, les requins mutants l'attaquent, mais lui, il a la parade. T'as vu ? Il tremble le diamant, il le prend, et une semaine plus tard, la dame arrive au chouk, et elle voit le diamant en vente. Elle dit, mais c'est mon diamant ! Je dis, pas du tout. Elle voit le pilote, elle dit, mais c'est pas du tout. Mais si, regardez la preuve ! C'est mon nom, mon numéro de sécu, ce que tu veux. Ah, disons, pas du tout, on va au Beddin. Et au Beddin, eh bien, on raconte toute l'histoire, et là, le tribunal rabbinique tranche, c'est pas à vous, madame, le diamant, c'est à lui, le diamant. Pourquoi ? Oui, c'est marqué votre nom, bien sûr. Mais au moment où c'est tombé, vous avez complètement abandonné l'idée de pouvoir le posséder. C'est ce qu'on appelle Yehush. Ce n'est plus à vous.
C'est involontaire.
Volontaire ou involontaire, il n'empêche qu'elle a perdu l'intention de l'avoir. C'est terminé. Donc, c'est plus à vous. Ce qui veut dire que d'après la loi juive, quand on achète quelque chose, ce qui détermine mon lien avec la chose, c'est ce que j'en fais. Ainsi donc.
Donc elle aurait pu dire tout de suite en atterrissant, ouais. J'ai perdu le diamant, si jamais il se retrouvait, sachez qu'il est à moi.
Elle aurait pu. Alors, mais vu que c'est moi qui invente l'histoire,
ouais. Non, mais
elle ne l'a pas fait.
Dans ce cas-là,
si elle n'a pas fait, si elle avait dit, j'ai pas du tout été mitiachet et tout ça, machin, si elle avait dit au contraire, moi quand je suis descendu, j'ai loué des services d'un sous-marinier et tout ça, ok. Donc, maintenant revenons à notre histoire. Donc ça veut dire que si. La première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, qui détermine notre lien avec la terre d'Israël, c'est un objet, un champ, une maison. Eh bien, ce qui va déterminer la possession, c'est ce qu'on en fait. C'est est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas ? Est-ce qu'on le cultive ou est-ce qu'on ne le cultive pas ? Si on part en exil, alors c'est plus à nous. Mais en fait, ce qui va déterminer notre lien avec la terre d'Israël, c'est... C'est, alors oui, mais ça, c'est, tu parles d'aujourd'hui. À l'époque, ça n'existe pas, hein, ce qui est au tabou. Et donc, puisque la première acquisition du peuple juif, c'est un tombeau, qu'est-ce qu'on demande à celui qui habite dans le tombeau de faire ?
Il
bah, rien du tout.
D'être présent.
On ne lui demande rien, il est mort. Il est mort. Mais il est mort, on ne lui demande rien. Ça veut dire que même s'il n'est plus là, ça reste son tombeau quand même. Ça va ? Relativement, il n'est plus là. Au bout de quelques années, il n'y a plus rien. Ça va ? Mais c'est son tombeau.
Ah,
là, c'est-à-dire que dans une tombe, on ne demande rien, à part le fait que, ben voilà, c'est la tombe. Donc, le fait que le premier achat du peuple juif en terre d'Israël, ce soit un tombeau, va cristalliser le lien avec la terre d'Israël qui fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qu'on soit là, qu'on soit pas là, qu'on le cultive ou pas, c'est chez la nous. Ok, c'est à nous. Donc maintenant, on va devoir donc cristalliser ce lien. Donc, voyez, Rayé Sarah, mais Hachana. Oui.
Il n'y a pas Adam et Chava qui ont été enterrés dans ce.
Ah, il y a aussi Adam et Chava qui sont enterrés dedans.
Ah, c'est ça.
Oui.
D'accord. Ça appartient à tout le monde, alors.
Mais ça, on va y revenir. Hein ?
Alors, Adam et Chava, c'est tout
le monde. Oui, Adam et Chava, ça à tout le monde. On va voir.
D'accord.
Voyez, Rayé Sarah, mais Hachana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, Shene, Rayé Sarah. On dit, voilà les vies de Sarah qui avait 100 ans et 20 ans et 7 ans. Pourquoi pas 127 ? Alors toi tu dis Pourim.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que Achashverosh il règne sur
127.
127 à Medina. D'accord ? D'accord, il y a un lien. C'est-à-dire qu'à Pourim, on a essayé de s'approprier de la matrice d'Israël. On a voulu tuer le peuple juif pour le remplacer. C'est-à-dire ? Mais ici on a 100 et 20 et 7, nous disent nos sages, parce qu'elle était à 20 ans sage comme à 100 ans et à, 20, et à 7 ans pure comme non à 20 ans sera pure comme à 7 ans, belle comme à 7 ans et ainsi de suite. Là, bon, Sarah c'est pas n'importe qui comme bonhomme. Mais après on nous dit Shene Chaye Sarah, comme s'il y avait pas les années de la vie de Sarah mais une deuxième vie de Sarah. Shene Chaye Sarah. Il y a une deuxième vie de Sarah. Oui, il y a la Sarah avant que Yitzhak ne réalise le projet divin, et il y a la Sarah qui est la mère d'Israël après que Yitzhak réalise le projet divin. D'accord ? Vatamot Sarah bekiryat arba i chevron. Be'eretz Kenan va'yavo Avraham mispod el Sarah velivkot. Alors, Pourquoi est-ce qu'elle est... La ville où elle meurt s'appelle Hebron. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Kiryat Arba? Le quartier des quatre. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a quatre couples qui sont enterrés là-bas. Et donc, c'est normal qu'à l'époque de Sarah, on appelle ça Kiryat Arba.
Non, c'est pas le problème.
Hein? Ben voilà, ils sont pas encore enterrés là-bas, les quatre. Si on parle de quatre couples, on parle de Adam et Chava, Sarah et Abraham, Yitzhak et Rivka et Yaakov et Léa. Donc, c'est pas encore ça. C'est-à-dire, alors c'est pas grave, tu peux dire que c'est Moshe qui a écrit Kiryat Arba, et à l'époque de Moshe, il y a déjà eu Kiryat Arba. Ou alors, tu peux dire tout simplement que la ville s'appelait Kiryat Arba, mais pas au nom des quatre couples qui y sont enterrés, mais au nom des quatre géants qui habitaient là-bas, qu'on va retrouver dans la paracha de Shlach Lecha, les enfants de Knaan. C'est-à-dire, nous, Mazé Meshane, pour nous, ça sera Kiryat Arba au nom des quatre couples. Donc Kiryat Arba, hi Hebron, Beretz Kenan, va'avo Avraham l'espot de Sarah v'lifkota. Va'yakom Avraham me'al pene meto, va'idaber el bene chet l'emor. À qui donc Avraham s'adresse? Il s'adresse aux chrétiens. Ron, pas aux chrétiens.
Aux
chrétiens. C'est-à-dire, pourquoi aux chrétiens?
C'est les propriétaires.
C'est, y a, c'est pas les propriétaires, mais c'est eux qui habitent là-bas. Voilà. Le peuple cananéen qui habite là-bas sont bene chet. Et là, Abraham leur dit le secret du judaïsme. Il leur dit « Ger vetoshav anochi imachem ». Vas-y, on est. Dans ce monde, il faut choisir. Est-ce qu'on est ger ou est-ce qu'on est toshav? Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont été à l'Ulpan. Oubliez l'Ulpan. Parce que l'hébreu moderne nous trahit à ce niveau-là. Ger, la gour, anigar baaret, en hébreu moderne, ça veut dire j'habite, c'est mon pays, je réside permanent. Alors que, en fait, dans l'hébreu de la Torah, guerre, ça veut dire étranger, temporaire, toshav, ça veut dire permanent. D'accord? Donc le yishuv, la chevet. Donc, quand il leur dit guerre vetoshav, dans ce monde, on est guerre baolamazé? Dans ce monde où on est toshav baolamazé.
On est de passage.
Donc, si tu dis on est de passage, c'est que tu tends à aller dans la mazé. Donc, tu tends à aller vers le côté où on est guerre.
Pas vraiment, non.
Bah, tu me dis on est de passage. Donc, c'est pas notre chez nous. Donc, c'est pas notre chez nous.
Si, je suis chez moi, mais on est de passage quand même.
Quand tu dis, quand tu vas dans ta maison de campagne, c'est pas vraiment ton chez toi. T'es de passage.
Laquelle de
mes... Ah bah ça je sais pas. Quand on est de passage quelque part, on est de passage, comme tu le dis, c'est de passage. Si tu me dis je suis de passage bah olamazé, ça veut dire que l'essentiel de moi-même, c'est pas olamazé. Ah regarde, c'est effectivement la vie du judaïsme. Alors que les nations, comment est-ce qu'on les appelle dans la tradition juive?
Goyim.
Goyim, ou alors il y a un autre mot? Umot Aolam. M baolam, M po. Eux, ils se sentent clairement po. Toshavim. Nous dit Abraham, ger ve toshav anochi imachem. Nous sommes gerim ve toshavim. Nous sommes gerim parce qu'effectivement le monde appartient à Kadosh Baruch Hu et qu'on est de passage. Mais on est toshavim parce que c'est ce même Kadosh Baruch Hu qui a voulu qu'on soit là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas uniquement attaché à la matérialité de ce monde, mais on n'est pas non plus complètement détaché de ce monde. Maintenant, le chidouche, c'est que moi, j'ai compris ça, mais vous aussi.
Ouais, mais,
Rashi te dit, « Im atem gerim imadi, az atem toshavim ba'olam hazé. Im atem toshavim imadi, atem gerim ba'olam hazé. »
Non, mais il commence pas à dire « ger me'eretz acheret, v'tiyashavt imachem. »
Ça, c'est le sens littéral. Ça, c'est le sens littéral, c'est évident. C'est-à-dire qu'Avraham, évidemment, qui vient d'ailleurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il est connu, Avraham. N'oubliez pas une chose. Avraham est un personnage public. Ça, j'aimerais qu'on le redise, parce que je pensais que c'était évident, donc je ne l'ai pas redit. Mais Avraham, c'est une star internationale hein, à ce moment-là. Rappelez-vous, hein, ce n'est pas un barbu que personne ne connaît. Avraham, il a fait la guerre contre les quatre rois babyloniens, il a gagné. Avraham, tous les rois de la région ont voulu en faire leur roi. C'est-à-dire que tout le monde connaît Avraham à ce moment-là de l'histoire. C'est-à-dire, donc évidemment, tout le monde sait qu'Abraham vient de Mésopotamie et qu'il est arrivé ici. C'est une évidence. Et il dit, voilà, guerre, Vetoshav, je viens d'une autre pays, maintenant je suis à vous. Mais ça fait bien longtemps que je suis là déjà. Ouais. C'est-à-dire, donc, en l'occurrence, ça fait combien de temps qu'il est là ? Sarah meurt à 127 ans. Abraham a 10 ans de plus que Sarah. Donc, quand Sarah meurt, Abraham a 137 ans. Il est arrivé en Eretz Israël à l'âge de 76 ans. Puisqu'il est parti de Haran à 75. Allez, on va dire qu'il y a un an de voyage. Donc, il est arrivé à 76 ans et il a maintenant 137 ans. Les amis, ça fait plus de 30, ça fait 31 ans. 61 ans. 61 ans, c'est rare autant pour moi. 61 ans qu'il est là.
Ça va.
Ouais, les gens commencent à le connaître. Ça, je sais pas, quand ça fait 60 ans qu'on a fait l'Aliyah, on peut dire qu'on est israélien.
Même avant.
Donc, Abraham, c'est sûr que tout le monde le sait qu'il était là-bas et qu'il vient ici. Maintenant, il veut leur apprendre, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Il se cache derrière tout ça que vous aussi, vous pouvez avoir le vrai lien avec Dieu. De guerre, vetoshav. D'ailleurs, quelqu'un qui se convertit. Comment on dit qu'il s'appelle ? On dit guerre chez Mitgayer. Attends. Un guerre, pas chez Mitgayer, on aurait dû dire guerre chez Mityachev. C'est-à-dire, il était étranger, maintenant il devient de chez nous. Si tu veux dire qu'on est, nous, juifs, guérim, tous entiers, alors dit Toshav chez Mitgayer. Mais qu'est-ce que c'est guerre chez Mitgayer ? Il est guerre, mais il reste guerre à la fin.
C'est qu'il y a deux sens.
C'est-à-dire qu'il était guerre, il était étranger au peuple juif, et maintenant il fait partie du peuple juif, et on lui apprend qu'il est guerre par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ok ? Guerre chez Mitgayer. Donc Abraham leur dit, guerre vetoshav anochi, mais pas que moi, imachem, vous aussi. Donc, tenouli achuzat kever imachem veikbera meti milefanai. Là, les autres, les chétéens, lui disent, oulala, tu vas beaucoup trop loin, mon ami. Nous, on n'est pas à ton niveau, hein. Calme-toi, redescends sur terre. Vayanu benechet et Abraham le morlo, shmaenu adoni. Nesi Elohim ata betochenu. Tu es le président de Dieu ici. C'est-à-dire, attends, on sait que tu es quelqu'un de spirituel, on sait que tu as un niveau extraordinaire, mais c'est pas nous. C'est-à-dire, Nesi Elohim ata betochenu. Bemifrar kevarenu kevor et metecha, ish mimenu et kivros lecha lo yichle mimcha mikvor metecha. Écoute, ne prends pas la tête, tu peux enterrer ton mort où tu veux. Personne ne t'empêchera d'enterrer ton mort. Mais qu'est-ce qu'Abraham il a demandé ? Et qu'est-ce qu'ils lui répondent ?
Tu peux prendre la place que tu veux.
Mais
tu payes pas.
Mais tu peux pas acheter. C'est-à-dire qu'on est prêt à te laisser en terre où tu veux, mais t'es chez nous.
Mais Abraham.
Tu seras pas chez toi.
Dans le texte, Abraham dit nous li achuzat.
Non, nous ça veut dire l'ignot. Non, ça veut dire la tête. Ça ne veut pas dire en hébreu moderne donnez-moi un cadeau. Ouais. La tête, c'est acheter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas lui vendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord qu'Abraham s'implante en terre d'Israël. On a trop peur de ce que ça veut dire qu'Abraham s'implante véritablement. Tout le monde sait quelle est la promesse que Dieu lui a faite. Ça fait trop peur.
Et quand même, dans le pshat, on pourrait traduire
toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire.
On peut croire dans le pshat que c'est vrai. C'est-à-dire que nous, lui, donnez-moi, je veux acheter, donc en quelque sorte, un type comme toi, il n'a même pas besoin d'acheter, tu l'enterres où tu veux.
Ouais, mais tu vas voir que le dialogue qui va se mettre en place montre que c'est de ça qu'on parle. Alors viens, on regarde.
Il insiste.
Bah oui, mais justement, parce qu'il veut acheter. Donc tu vois bien que s'il a besoin d'insister, c'est ça qui bug, c'est ça qui coince. Alors regardez, Vayakom Abraham Vayishtachu le'am ha'aretz livnecher. Donc il les remercie. Vayedaber itam lemor. Bon, j'ai compris qu'avec vous on ne peut pas parler. Donc j'aimerais que vous mettiez en contact avec le vrai balabait. Ok, je ne veux pas parler avec le peuple, je veux parler avec les responsables. Donc Vayakom Abraham Vayishtachu le'am ha'aretz livnecher. Vayedaber itam lemor. Im yesh et nafshechem. L'ikbor et meti. Vous avez dit, on va te laisser enterrer. Si vous êtes d'accord de m'aider, Shema'uni upigouli be'Ephron ben Tsoha. Faites-moi rencontrer Ephron, fils de Tsoha. C'est qui ce mec?
C'est le propriétaire du terrain.
C'est le propriétaire du terrain. C'est un chrétien également, mais...
Mais c'est apparemment...
Voilà, c'est quelqu'un de connu. Du moins, pour la Torah, c'est suffisamment important pour qu'on mette son nom. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de son nom? Ephron, Zemache Nishar Mina Afar. La poussière. C'est ce qui reste de la poussière. Ou Ephron, Ben, Tsochar. Mais Tsochar, c'est ce qui est clair. C'est-à-dire qu'il est, c'est ce qui est clair. Ce qui donne de la lumière. Donc, éclair. Donc, si tu veux. C'est-à-dire que Ephron Ben Tsochar, c'est le dernier vestige de celui qui est fait de poussière, mais qui en fait est fait de lumière. De qui on parle?
C'est un peu difficile, ça.
Qui a été fait Afar Mina Adama?
Adam.
Et qui éclaire le monde, à tel point que Rabbi Meir dira que lorsque Dieu lui a fait Kutnot Or, dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait marqué Kutnot Or, Adam Aleph, qui dit qu'il a été fait vêtu de lumière. Adam Arishon. Ephron ben Tsochar, c'est celui qui gardien.
C'est Adam.
C'est lui qui est le gardien de Adam Arishon.
Oui, mais on peut quand même se poser la question, pourquoi il n'est pas allé directement là-bas?
Chez lui?
Ah, mais c'est très simple. Avec qui?
Ben, c'est très simple. Au départ, quand tu veux commencer, est-ce que il y a deux façons. J'ai appris ça un jour de mon fils qui m'a dit, tu sais, quand tu veux réussir, il y a deux façons de réussir à prendre un poste. Soit tu vas par le bas, soit tu vas par le bas et tu es bon et tu as des qualités, donc ouais, tu avances par le bas, machin. Soit tu connais quelqu'un en haut.
Ouais. C'est ça.
Je veux aussi leur faire tchouba. Vaïten l'isra et meharat amachpel. Donc Abraham est clair. Il dit, je veux acheter quoi? Meharat amachpela. Qui se trouve au bout de son champ. Donc qu'est-ce que je ne veux pas acheter?
Le champ.
Je veux pas acheter le champ.
Parce que celui-là, il n'est pas perpétuel.
Je veux acheter uniquement la grotte. Top. Pour en faire une tombe. Ve'Ephron Yoshev Betor Benechet. C'est-à-dire qu'il est là, Ephron. Il fait partie de ceux qui sont tous là dans la réunion avec Abraham. Ve'Ephron Yoshev Betor Benechet. Vayan Ephron Achiti et Abraham, Secha Beozne Benechet, Lechol Baesh Ariro Lemo. Donc Ephron s'avance. Et maintenant commence un dialogue à deux visages. Il y a le dialogue Ephron-Abraham en chouchou, c'est-à-dire qu'entre eux. Et il y a le dialogue Ephron-Abraham devant tout le monde. C'est pas le même. Regardez. Donc là, Beozne benechet lechol baesh ariro lemor. Donc Ephron, il va parler à Abraham devant tout le monde. Et il dit, lo adoni, shema'eni. Non. Écoute-moi bien. Asade netatilach. Va meara sherbo lecha netatia. Lene bene ami natatia lecha kevor metecha. Écoute, Abraham, moi je sais très bien ce que tu veux. J'ai bien compris que tu voulais acheter une tombe pour créer le lien d'éternité avec nous. Mais ça passera pas. Alors écoute bien ce qu'on va faire devant tout le monde. Je te vends le champ. Ah, la grotte qui est dedans. Bah, ça fait partie. Mais je te vends le champ. Aux yeux de tout le monde, tu as acheté un champ. On a dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Aha. Tov. Vaishtachu Avraham lifnei Amaretz. Vaidaber el Ephron beozne Amaretz lemor. Donc là, Avraham répond devant tout le monde. Ach im ata lo shema'eni netati kesef asade kach mimeni ve'akbera et meti shama. Donc j'ai acheté aux yeux de tout le monde
Le champ.
Vayan Ephron et Avraham les morlo. Là, c'est que entre nous deux. Adoni Shmaeni. Eretz arba meot shekel kesef beni o benecha mai veet metra kevor. On est entre nous deux. On sait très bien que c'est pas ça qui est en jeu. Mazé arba meot shekel kesef. Les gens, ils disent parce que il se la joue, il est intéressé par l'argent. Je pense pas. Je pense que vraiment Ephron, c'est un mec bien. Il dit, j'ai bien compris que ce n'était pas ça qui était en jeu. Et réponse d'Avraham, Vaishma Avraham et Ephron, Vaishkol Avraham et Ephron et Akesef, Asher Diber Beozne Benechet, Arba Maot Shekel Kesef, Over la Socher. Et donc Avraham a acheté, Meharat Amachpela, en vrai, mais aux yeux de tout le monde, aux oreilles de tout le monde. Il a acheté le champ avec la Mehara. Maintenant, deux secondes. Ok. Il a acheté sa Mehara et il va enterrer là-bas Sarah. C'est ce qu'on dit ici. Vayakom Zde Efron, Asher Bemerpela, Asher Lifne, Mamere, Asade, Vehamehara, Asher Bo, Vechol Etz, Asher Besade, Asher Bechol Gevulo Saviv. ולאברהם מקנה, לאברהם למקנה, לעיני בן אחד, בכל באי שער עירו. Donc, il a acheté devant tout le monde, il y a l'acte de vente. ואחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו, אל מערת שדה המכפלה, אל פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. Donc, il l'a enterré. On assiste donc ici à l'enterrement de Sarah. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui vont être enterrées dans cette grotte. Le Gaon de Vilna nous dit, nous avons un remez qui nous dit combien de personnes vont être enterrées ici. C'est le nombre de fois où il y a le mot Kvor Metecha, enterre ton mort. Alors regardez, je reprends toute la paracha. Je reprends toute la paracha. Qu'est-ce qu'il y a marqué à partir du verset 3. Comptez-moi les fois où il y a marqué Kvor Metecha. ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור גר ותושב אנוכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה את מתי מלפניי ויענו בני חת את אברהם לאמור לו שמעוני אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו מבחר קברנו קבור את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך ויקום אברהם וישלחו לעם הארץ לבני חת וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי שמעוני ופיגולי באפרון בצוחה, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא את אשר בקצה שדה ובכסף מלא, ויתנה לי בתוככם לאחוזת קבר. ואפרון יושב בתור בן נכד, ויען אפרון את החיתי את אברהם באוזני בן נכד, לכל בה ישר יראו למור. לא אדוני שמעיני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי, נתתי לך כבור מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל אפרון באוזני בן נכד למור. אך אם את... אך אם אתה, לו שמעיני נתתי הכסף השדה, קח ממני והקברה את מתי, שמה, סיפוה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעיני ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך מהי, ואת מתך כבור. אז פעם אומרים שוז. אז כאילו שכוונה ומחכה כבור מתך, אלא ימחכה מתך כבור. טיפה דיפיון. סט פועה. Dire Gaon de Vilna, c'est le lien, le remez, pour nous dire qu'il y a sept personnes qui sont enterrées là-bas d'après l'histoire d'Abraham. Ça ne met pas en compte Adam et Chava. Alors, c'est qui les sept?
C'est tous ceux, sauf...
Abraham et Sarah. Yitzhak et Rivka. Yaakov et Léa.
Et la tête
d'Esav. C'est pour ça que les six premiers... La tête de Esav. C'est pour ça que les six premiers, il y a marqué... Kevor metecha, parce que Atsadikim. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, deux secondes, je comprends bien que c'est assez étonnant. Deux secondes. Kevor metecha, enterre ton mort. Pourquoi marquer d'abord Kevor metecha? Parce que les Tsadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Donc c'est pas parce que tu les as enterrés qu'ils sont morts. Ah, évidemment, ils sont morts biologiquement, mais ils sont pas morts. Matai, chez où? Ils mourront pour pouvoir revenir au Betriat Ametim, mais beaucoup plus tard. Alors que les Rishaïm, ils sont appelés morts de leur vivant. Donc quand on fait référence à la tête de Esav, on dit Vet Metra, il était déjà mort depuis longtemps. Kvor. Ok? Maintenant, pourquoi la tête d'Esav? Alors, oui, effectivement, ça c'est intriguant. L'histoire nous emmène loin, loin, loin devant, à la fin du livre de Bereshit, lorsque Yaakov meurt. Lorsque Yaakov meurt, tous les enfants le ramènent. En Israël, depuis l'Égypte, Maharat Amarpella, on veut enterrer Yaakov. Et quand le Midrash nous raconte, quand ils arrivent devant l'entrée de la tombe, il y a Esav qui est là. Et il dit, alors, hors de question que Yaakov soit enterré là-bas.
Il est encore vivant.
Ah oui, ils sont jumeaux. Il n'y a pas de raison. Il y en a un qui vient de mourir.
Quand il revient d'Égypte, il est déjà mort. Quand il est enterré,
il vient de mourir. Il vient de mourir, Yaakov. On l'enterre, donc il vient de mourir. Donc c'est possible que Esav, il soit encore en vie. C'est ça? Donc il revient, il est à côté, il dit, il est hors de question que Yaakov soit enterré.
Pourquoi?
Parce que s'il y a quelqu'un qui doit être enterré à côté de papa et à côté de papy, c'est moi.
Et il n'y a pas de place pour deux?
Ah non. C'est moi l'aîné. Ah oui, mais là les frères sont un petit peu...
Il
dit, voilà, t'as vendu ton droit d'aînesse. Alors il dit, ah bon, vous avez une preuve ? Il dit, bah oui, on a l'acte de vente qui est en Égypte. On ne savait pas que tu serais là. Elle dit, non, je m'en fous, moi je ne bouge pas, personne ne rentre tant que... voilà. Donc on envoie Naftali, parce qu'il court vite. Et on l'envoie courir toute la péninsule du Sinaï, Naftali, parce qu'il court très vite. Et donc il traverse comme ça, tout le Sinaï, et il va chercher la feuille en Égypte. Bon, même s'il court vite, ça prend quand même quelques heures.
Voilà.
Et pendant ce temps-là, ben, il ne se passe rien. Un des personnages qui est présent, c'est le petit-fils de Yaakov, fils de Dan. Il s'appelle Hushin. Et Hushin ben Dan nous dit le Midrash qu'il était sourd et muet. Donc on n'arrive pas à communiquer avec lui, on n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. On n'arrive pas à communiquer avec lui et donc il ne comprend pas grand-chose. Et on est, il ne comprend pas pourquoi on n'enterre pas son papy, ce n'est pas kavod. Et on essaie de lui faire comprendre, on lui montre Esav et on lui fait comprendre que c'est de sa faute. À ce moment-là, il prend une lance, il lance et il décapite Esav en un coup. Le corps tombe sur place et la tête roule dans la Maharat HaMarpela. Et le Midrash termine en disant qu'à ce moment-là, Yaakov a souri, bien qu'il était mort. Et que ça veut dire ce Midrash ? Ce Midrash nous dit que la tête de Esav, les idées que représente Esav, elles ont leur place dans la Maharat HaMarpela. Son corps, la façon de les mettre en pratique, ça, ça n'a pas sa place. C'est-à-dire, il y a des choses très bien à apprendre de la société occidentale. Mais la façon dont elle réalise ses idéaux, pas forcément. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un idéal incroyable qui s'appelait liberté, égalité, fraternité. C'est beau. C'est une belle idée. Franchement. Bon, ça a donné la terreur et ensuite l'empire napoléonien. La façon dont ça a été fait, ce n'était pas bidiouk. Mais l'idée, elle était bonne. C'est-à-dire, donc ça, c'est le remez des sept personnes qui vont être enterrées là. Donc ça y est, on a enterré Sarah. C'est bon. Maintenant qu'on a enterré Sarah, il ne reste plus qu'à faire quoi ?
À marier.
Ben voilà, il faut... Il faut assurer la suite. C'est-à-dire ? Va'avram zaken baba yamim. Va'achem berach et Avram bakol. Ah. Alors ça, on avait déjà expliqué une fois, je me rappelle. On va le redire. Avram est vieux. D'accord. Zaken baba yamim. Et Dieu l'a béni bakol. Mazé Bakol. Alors, trois avis ont été donnés par nos sages. Premier avis, qui vient du Talmud, dit, et Rashi il amène cet avis-là, il dit Mazé Bakol, c'est dans, il l'a béni en lui donnant un fils. Un fils. Parce que Bakol, en Gematria, en valeur numérique, le mot Bakol, c'est 52. Et c'est la même Gematria que le mot Ben, fils. Donc, c'est quoi la bénédiction que Abraham a reçue ? C'est qu'il a eu un fils. Tov, la malo. Ensuite, deuxième avis qui est amené par le Talmud, Mazé Bakol, qu'il avait une fille. Et que Bakol, c'était son nom. Pourquoi pas ? On connaît bien des Nicole. On connaît des Nicole. On peut bien connaître une Bakol. C'est pas un problème. Sauf que le Ramban nous dit tout de suite, à propos de cet avis du Talmud, ne pense pas que lorsque le Talmud dit qu'il avait une bat, ça veut dire qu'il avait une fille. Bat ne veut pas dire fille, mais ça veut dire une qualité.
C'est bat.
Bat, c'est une qualité, une mida, dans le langage du Talmud. Et il avait, donc c'est quoi cette qualité ? C'était d'être kolel, d'être bakol. Donc, nous dit le Ramban, quand le Talmud te dit qu'il avait une fille, et c'est ça sa bénédiction, non, ne crois pas qu'il avait une fille, il n'avait pas de fille, il avait une qualité d'être global. C'est ça sa bénédiction. Troisième avis du Talmud, c'est quoi Bakol ?
C'est pour que personne ne savait, parce que s'il y en a...
Attends, troisième avis et dernier avis du Talmud, c'est quoi Bakol ? Lachem Berach et Avraham Bakol, c'est qu'il n'avait pas de fille. C'est ça la bracha.
Les féministes
vont se lever. Bah alors ? Mais enfin, c'est quoi ça ? C'est très bien les filles. Nahon, c'est très bien les filles. Aval, c'est très 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 pas bien si Avraham a une fille. La bracha d'Avraham, c'est de ne pas avoir de fille. Parce que vous vous rendez compte que le point commun des trois explications, c'est qu'il n'avait pas de fille. Et pourquoi c'est tellement important qu'Avraham n'ait pas de fille ? D'ailleurs, entre parenthèses, que Yitzhak non plus n'en ait pas. Pourquoi ? Parce que si Abraham a une fille, qu'est-ce qu'il faudra faire avec elle ? Il faudra la marier. Ça veut dire qu'il faudra faire rentrer dans la construction de l'identité d'Israël un élément extérieur.
Et quand les fils se marient, qu'est-ce qu'ils prennent alors ? Les fils, ils trouvent les femmes juives ?
Attends, les fils ?
Les fils.
Ah, tu dis avec qui ils vont se marier ? Ils vont bien se marier avec quelqu'un ? Non, oui, bien sûr. Ce n'est pas une question de judaïsme. C'est une question de transmission d'identité. À cette époque-là, malheureusement, on n'est pas dans une société où vraiment les filles, elles ont vraiment leur droit au chapitre. Et donc, celle ou celui, en l'occurrence celui qui va donner le ton de la famille, c'est l'homme.
Sarah, elle avait du poids.
Ah, mais Sarah, mais il n'empêche que celui qui a donné le ton à la maison d'Abraham, c'est Abraham. Sarah à l'intérieur, voilà, on connaît l'histoire. Mais en vrai, c'est la maison d'Abraham.
Chercher la femme.
C'est-à-dire, Nachon, d'ailleurs, tout grand homme, il y a une femme encore plus grande. Hein, l'homme croit qu'il est la tête dans le couple, mais la femme, c'est le cou. La femme est l'avenir de l'homme. Bon, voilà. Hein, on est, voilà, il y en a d'autres. En tout cas, si Abraham, alors que l'identité d'Israël n'est pas formée à une fille, c'est un vrai problème. Si Yitzhak, alors que l'identité d'Israël n'est pas formée à une fille, c'est un problème. Yaakov, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, on peut avoir une fille. Parce que maintenant, l'identité d'Israël est faite, donc maintenant, on peut intégrer des choses de l'extérieur, ça ne va faire que rajouter du bien. D'accord ? Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est qu'il n'ait pas de fille. Pourquoi ? À cause de son état. Pas parce que ce n'est pas bien une fille. Après, il y aura des filles. Et à four, on dira que c'est grâce aux femmes d'Israël qu'on est libérés à chaque fois. Et ça, c'est une fois qu'il y a Israël.
Et la transmission se fait par les femmes quand même.
Et la transmission, non seulement se fait par les femmes.
Je ne comprends pas pourquoi à l'époque, c'est comme pas ça. Reconnu.
C'est pas reconnu, c'est un fait. C'est la réalité. C'était comme ça.
Adam et Chava. On a décidé que la transmission se fait par les femmes.
À partir de Mahamad Arsinaï. À partir de Mahamad Arsinaï, il y a eu un changement terrible. Parce que c'était pas du tout quelque chose que les sociétés de l'époque pouvaient intégrer, c'était que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe et il dit à Moshe d'aller parler aux femmes d'Israël pour qu'elles enseignent à leur mari. C'est ce qu'il y a marqué dans le verset Kotomar levet Yaakov vetaged livne Israël. Nous dit le Maharsha, Kotomar levet Yaakov, c'est Dieu qui dit à Moshe, va parler aux femmes d'Israël, vetaged hem. Elles, les femmes d'Israël, elles vont rattacher les Bnei Israël, c'est-à-dire leur mari. Donc il y a à ce moment-là une dimension fondamentale de la femme d'Israël qui a le rôle d'être celle qui rattache le mari, le fils, le père à la Torah. À partir de Mahamad Arsinaï. Ok ? Donc avant ça, on est une société patriarcale, quoique les femmes vont aussi jouer des fois des rôles très importants. On peut voir ça avec Dvorah Nevia, on voit ça avec Abigail, il y en a des femmes de pouvoir et des femmes de poids. À ce moment-là. Mmh. Ça a l'air, mais.
Et même Rivka, hein, si tu vas chercher.
Non, évidemment, évidemment. Non, mais Rivka, Rivka, elle, c'est celle qui va faire avancer l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Myriam avant Moshe. Ça a l'air, donc, je te dis, il y en a des femmes d'importance. Mais dans les faits, voilà, saute. Pourquoi est-ce que le Zahar, il s'appelle Zahar ? Ça, c'est au niveau de l'étymologie, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que. Le Nekeva, la Nekeva, elle s'appelle Nekeva. Ça, c'est plus facile.
Oui.
Pourquoi la Nekeva, elle s'appelle Nekeva ? Parce qu'elle a un Nekev.
Nekev.
C'est Nekev.
Un creux.
Un creux.
Un creux.
Pas besoin de te faire un dessin. Est-ce que je dois te faire un dessin ? Non, c'est bon ? C'est bon. Donc ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle Nekeva. Pourquoi est-ce que le Zahar, il s'appelle Zahar ? Qui unose est à Zecher chez la Zéout. Parce que c'est lui qui porte le souvenir de l'identité. Du moins dans les sociétés de l'époque. D'accord ? Zemayesh. Donc, Vahashem, Vavram Zaken, Babayamim, Vahashem, Berach et Avraham, Bakol. Vayomer Avraham el Avdo, Zekan Beito, Amoshel Bechol Asherlo. Pourquoi est-ce qu'on nous le présente comme ça ? Il a parlé à son serviteur, celui qui est son homme de confiance, celui qui est le patron de la maison. Tout ça pour dire que, bien qu'il soit tout ça, ce n'est pas lui qui peut succéder à Abraham. Ok ? Simna yadecha tachat yerechi. Vashbiacha be'ashem Elohe ha-shamayim ve'Elohe ha-aretz, asher lo tikach isha livni mibnot ha-kenani asher anochi yoshev bekirbu. Il dit, mets ta main tachat yerechi. Sur ma hanche ? Ben évidemment. C'est où sous ma hanche ? Ben évidemment. Ben évidemment. Il lui dit de prendre la brite mila en main. La main. Quand tu es nishba, b'shem Hashem. Ou alors tu es nishba, Torah. Quand tu as reçu la Torah. À l'époque d'Abraham, quelle est la seule mitzvah qui relie à Kadosh Baruch Hu ?
La
brite mila. C'est ça ? Donc c'est pour ça qu'il lui dit, Simna yadecha tachat yerechi. Il lui dit, prête-moi serment que tu ne ramèneras pas pour mon fils une femme des enfants des Cananéens parmi lesquels je vis. À qui il pense, Abraham ? Il dit, il ne faut pas que tu me prennes une fille d'ici. Dit le Midrash, il pense à la fille d'Eliezer. Eliezer a une fille. Et il pensait, il espérait que Yitzhak se marie avec sa fille. Et il dit non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que je veux que ça reste dans la famille hébraïque. Donc, d'ailleurs, comment est-ce que, juste entre nous, comment est-ce qu'il appelle Dieu ? Elohe HaShamayim ve Elohe HaAretz. En Eretz Israël, il est Elohe HaShamayim ve Elohe HaAretz. Quand on va partir en Chutz LaAretz, on l'appellera plus que Elohe HaShamayim. Parce qu'on ne ressent pas sa présence, Baaretz. D'accord ? En tout cas, il lui dit, ויאמר אליו העבד עזרא, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. Tu vas aller dans ma terre, là où je suis né, et tu prendras une femme là-bas. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, האשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? Et si j'aime, ok, je trouve la femme, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Est-ce que je dois ramener Yitzhak s'il va venir, c'est un beau gosse. Mayoter Khashoub, Khatuna ou Eretz Israël ?
Les deux, c'est pareil.
Réponse d'Abraham, je tranche. Vayomer Elav Abraham, Ishamer Lecha Pen Tashiv et Beni Shamma. Mon fils, il ne sort pas d'Eretz Israël. Hey. Combien de fois j'ai des jeunes filles qui me disent qu'elles sont une année en Israël. Elles ont passé l'année en Israël, elles sont en folie. Ou alors des garçons, ça marche aussi. Hein. Elles sont venues au Machon Meir, au Machon Nora, machin, une année. Elles ne veulent pas repartir, elles sont les étoiles plein les yeux, elles veulent faire leur alia, c'est bon. Mais j'ai mon copain, il habite à Paris. Qu'est-ce qu'on fait ?
On en connaît.
Hein ? On connaît tous. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ce moment-là ? Ah, tu peux lui dire, bah, dis au copain de venir. Mais il ne veut pas venir, il ne veut pas venir, il fait médecine. Non, tu comprends, il a des
raisons. Il viendra plus tard.
Il viendra plus tard. Alors, c'est ça, c'est une grande question. Est-ce qu'en tant que méchaner, Rav, tu dois lui dire, bon, bah, alors, c'est pas grave, va à Paris, mariez-vous, et Bezrat Hashem, un jour, vous reviendrez. Ou est-ce qu'il vaut mieux aller dans le sens, écoute, viens ici, et s'il veut, il vient, s'il ne veut pas, tant pis, t'en auras un autre. Sur quoi tu mets l'accent ? C'est une vraie question, Agave.
Bien sûr.
C'est une vraie question. C'est une responsabilité énorme. C'est une grosse responsabilité. Alors, la Mishnah, elle a tranché. La Mishnah, elle a tranché, mais ce n'est pas aussi facile de trancher dans la réalité. La Mishnah, elle a dit très clairement, la dernière Mishnah dans Maseret Ketubot, elle dit « Akol ma'alim l'Eret Israël ». Ça veut dire que si tu as un couple, c'est au niveau de la halakha, hein, si on a un couple qui habite tous les deux en dehors d'Israël, et qu'il y en a un des deux qui veut venir, l'autre il veut pas, ça peut être une raison de divorce et c'est celui qui veut qui gagne. C'est-à-dire que si c'est la femme, alors elle reçoit la ktouba, et si c'est le mec, il donne pas la ktouba à sa femme. C'est-à-dire, ça va jusque-là, l'importance de la terre d'Israël. C'est-à-dire, bon, après, comment est-ce que ça se met en main en pratique à la khal et maasé ? J'en sais rien du tout. Aujourd'hui, de toute façon, on n'est plus possède comme ça. Et je dis simplement que c'est des questions qui reviennent souvent, quoi. Qu'est-ce qui est plus important ? La khatuna ? Alors, ce que je leur dis en général, c'est que, tu sais, d'abord, tu n'es pas assuré que si tu retournes en France, vous allez quand même finir ensemble et que vous allez vous marier. Tu as 18 ans, il a 18 ans. Alors, c'est pas... Hein, c'est pas forcément. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que maintenant, à 18 ans, le plus important, c'est que tu construises votre vie à deux, ou que, alors que tu n'es pas encore construite, tu te concentres d'abord sur construire ta vie à toi. Après, elles décident ce qu'elles veulent.
Moi, elles décident quand même ce qu'elles...
Non, elles décident ce qu'elles veulent. Mais je pense que notre rôle, c'est de leur faire comprendre qu'à 18 ans, c'est un peu un leurre qu'on construit déjà notre vie à deux et qu'on est ensemble, machin. Apprends à te connaître, à savoir qui tu es, ce que tu veux dans ta vie, machin. C'est un peu tôt. Bekitsour. Donc lui, en tout cas Avraham, il lui a dit clairement, tu le ramènes pas en Chout Laaretz. Tu le ramènes pas.
Donc on ne peut pas conseiller.
Quoi que
ça ? C'est très difficile de conseiller
justement. Bah évidemment. Non,
bah, ton meilleur copain, il est toujours célibataire. Hein.
Ouais, mais mon meilleur copain, il est célibataire pas parce qu'il est venu en Israël alors qu'il avait une copine là-bas. C'est à four. Mon copain, j'arrête pas de lui dire, mais viens, tu te rends compte le nombre de filles qu'il y a ici ?
T'as raison, moi aussi je
le dis. C'est-à-dire, c'est, là, pour le coup, c'est pas la même histoire.
Non, c'est pas la même histoire.
Si seulement.
En plus qu'à l'origine,
c'est un autre problème. Mais si seulement, moi j'arrête pas de lui dire à chaque fois que je vais à Paris et que je le vois, je lui dis, mais tu te rends pas compte. C'est le nombre. Et en plus, on sait tous qu'il y a un grand, grand, grand problème dans le milieu francophone en Israël. C'est qu'il y a énormément de célibataires. On va dire plus des jeunes célibataires, et il y a beaucoup plus de femmes. Que, genre, je me dis, tu te rends compte le nombre de filles que je pourrais te trouver ? Viens, essaye, makara lecha. Après, chacun fait ce qu'il veut, on peut pas les forcer. En tout cas, Avraham, il dit, tu ramènes pas Yitzhak là-bas. Zehu, tu ramènes pas Yitzhak là-bas. Hashem Elohe Hashamaim. Tu vois, il ne l'appelle plus Eloé Haaretz. Parce que tu vas partir là-bas, donc il n'est plus Eloé Haaretz. Hashem Eloé Hashamayim, Asher Lekachani, Mibet Avi, Umeretz Moladeti, Vasher Diberli, Vasher Nishbali, Lemor, Lezaracha, Eten et Haaretz Azot, Hu Ishlach Malacho Lefanecha, Velakarta Isha Livni, Misha. T'inquiète pas, j'ai arrangé avec le patron, il t'enverra un malach qui t'aidera dans ta mission.
Tu as dit que va à l'endroit où je suis né.
Oui.
Il est né à
Ur-Kazim. Il est né à Ur-Kazim, alors qu'en fait, il va à Haran.
Il va à Haran.
Parce qu'en fait, quand on dit où est-ce qu'il est né, c'est où est-ce qu'il a commencé à être connu.
Ah.
D'accord. Ok. Et là, alors, il lui dit, Ve'im lo tove aisha la lechet achadecha. Et si, effectivement, la fille, elle ne veut pas venir, Ve'nikita mishvoat izot, rak et beni lo tachev shama. Si elle veut pas, bon ben, t'auras fait ta mission, tu peux rentrer tranquille. Va'asem ha'eved et yado tachat yerech Avraham Adonav, va'yishava lo al hadavar hazeh. Il lui fait le serment qu'il va remplir sa mission. Et sa mission, eh bien, on verra comment il l'a remplie la semaine prochaine. À Zagbour.